Voilà, je voudrais vous partager ce matin un sujet suite en partie à une question d'un frère qui est venu me voir, me poser cette question. Et suite à cela, ça m'a interpellé. J'ai commencé à réfléchir sur ce sujet parce que je me suis dit, effectivement, on parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup de Jésus. On a vu même certains qui se sont spécialisés dans les prédications et certains séminaires sur Satan, sur ces démons. Mais entre nous, est-ce que vous avez déjà entendu parler beaucoup des anges? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de tous ces sujets qui sont très bien en soi parce que nous avons besoin d'avoir une connaissance de toutes ces choses-là, mais rares les prédications sur l'enseignement des anges. Et je voudrais m'arrêter là-dessus parce que vous allez vous apercevoir que c'est un sujet qui est juste énorme. Moi, j'ai eu un mal fou à trier, à vraiment mettre sur papier, électronique là, parce que voilà, c'est mieux pour mes yeux, parce que je ne vois pas très bien, mais j'ai eu du mal à mettre sur papier le contenu de mes messages, parce que finalement, il y avait tellement de choses à dire sur les anges, que j'étais obligé de mettre de côté les anges déchus, bien sûr, avec Satan, tout ce qui va avec, même si on va relater un verset. J'ai mis de côté l'ange de l'Éternel, parce que là aussi, il y a énormément de choses à dire. Mais je voudrais vous parler quand même ce matin, et ciblé sur l'activité des anges au sein de son Église, et l'activité des anges proches de Dieu et de Jésus-Christ. Les mamans vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais combien de fois j'ai entendu des mamans dire à leur bébé « mon ange ». Non? Mon ange. C'est beau, hein? Mais finalement, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'ange, en tout cas, ce mot a une connotation de douceur. De protection. Il y a quelque chose de beau dans ce mot. Et c'est pour ça qu'on dit de nos enfants, ah, mes anges, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bon, après, quand ils grandissent, c'est pas plus compliqué. Mais c'est comme ça, ils sont quand même toujours nos anges. Et ça, c'est formidable. Combien de fois j'ai pu entendre ça? Dans la parole de Dieu, il est souvent question des anges dans les Écritures, c'est vrai, de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai remarqué que plus de 180 fois, nous retrouvons le mot ange dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau, plus de 170 fois. Pour montrer que les anges ont une activité ô combien importante. Les versets sont là, plus de 350 fois. On nous est relaté l'activité des anges dans les Écritures. Et on ne peut pas occulter les anges dans notre foi et dans notre vie chrétienne. Et vous allez vous apercevoir au travers des textes combien de fois les anges sont venus en aide auprès des chrétiens, ont intervenu de manière magistrale, ont pu être là, je dirais, au service de l'Église de Christ. Et tout cela parce que la parole de Dieu nous en parle. Alors, le mot ange signifie messager. Mais vous allez vous apercevoir qu'ils ne sont pas seulement des messagers. Au service de Dieu pour accorder des messages aux hommes, c'est vrai, et la parole de Dieu nous montre que ce sont des esprits. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre, on ira à Apocalypse tout à l'heure, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 14, il nous est dit ceci, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Qui doit hériter du salut? Toi, moi, mon frère, ma sœur. Et dans ce passage, il dit ceci, « Ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur. » En faveur de l'Église, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, en faveur de ceux et celles qui doivent se tourner vers Dieu et accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Les anges, tout à fait au départ, à la base, sont prévus pour répondre aux besoins, à la faveur, je dirais, de l'Église. Ils sont doués d'intelligence, ils sont doués de sagesse. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont doués de puissance, ils sont même immortels. Et Jésus dit dans Luc chapitre 20 verset 36 qu'ils ne peuvent mourir. Mais on va vite s'apercevoir d'une chose, c'est que si ils ne peuvent pas mourir, la parole de Dieu nous montre que par contre ils peuvent être déchus. Et il y a ce passage dans Ésaïe au chapitre 14 verset 12 qui est très intéressant. Il a dit ceci, te voilà tombé du ciel, astre brillant, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Sauf que la parole de Dieu nous montre que là, c'est, quand on nous a parlé d'astre brillant, c'est Satan, vous le comprenez bien, il a été précipité parce qu'il a voulu être à l'égal de Dieu. Et la parole de Dieu nous le montre, un tiers du monde angélique s'est joint à Satan, le diable, appelé le serpent ancien. Ça c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Et les anges déchus sont devenus des démons. Et l'astre brillant qui a été précipité, c'est Satan, qu'on appelle aussi Satan diable. Et on voit que finalement, il y a une scission, parce qu'à un moment donné, cet astre brillant, celui qui était comme un archange, a voulu prendre, pas la place de Dieu, mais juste même à l'égal de Dieu. Et c'était juste pas possible de pouvoir être à l'égal du maître. Et il a été déchu. Et c'est comme cela que finalement, à un moment donné, il y a eu les lumières et les ténèbres, la puissance de Dieu et puis la puissance de Satan. Alors, mais revenons aux anges. Parce que je crois que ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir ce qu'ils font dans notre vie. Leur activité dans le ciel est incontestable. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'ignorer. C'est la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet ce matin. Jésus en personne témoigne de leur activité. Et il témoigne de leur activité déjà pour la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 13, verset 38, il dit ceci de très intéressant. Regardez, écoutez-moi. Il dit « Le champ, c'est le monde ». La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges de ceux qui commettent le mal. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Ce texte nous dit que les anges, à la fin du monde, il viendra séparer la bonne semence à la mauvaise herbe. C'est-à-dire que les anges, à un moment donné, il fera la différence pour ceux qui sont sauvés et perdus, de ceux qui sont en Christ et de ceux qui ne le sont pas. Et la parole de Dieu nous montre que c'est eux qui vont faire le tri quelque part. Les anges auront le rôle de séparer la bonne semence à la mauvaise herbe. Et on aura beau peut-être avoir une apparence de piété, mais les anges sauront que derrière, ce n'est pas la piété qui règne, mais c'est les ténèbres. Les anges auront déjà cette activité plus tard, à la fin des temps, où il y aura vraiment là la séparation entre la puissance des ténèbres avec la puissance de Dieu. La Bible relate aussi un fait, c'est à Gethsémané. À Gethsémané, quand Pierre emporta l'oreille droite de l'esclave du souverain sacrificateur par l'épée, il y a quelque chose qui est dit dans ce passage, c'est Jésus qui en parle, alors que Jésus était à deux doigts d'aller mourir sur la croix du calvaire, et là on voit que Pierre vient avec son épée, il tranche l'oreille, et puis il veut essayer de défendre Jésus. Et là il y a quelque chose où Jésus s'adresse à Pierre et il dit, penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père et me fournirait plus de 12 légions d'anges? C'est-à-dire qu'à tout moment, Jésus pourrait faire intervenir ses anges. Et il dit à Pierre, mais pourquoi tu veux intervenir à ma place? Cela m'interpelle déjà, et vous le savez tous, qu'on n'est pas là pour défendre Jésus. Ce n'est pas notre rôle. On n'a pas à défendre le maître. On n'a pas à défendre le roi. On n'a pas à défendre le Seigneur. Le Seigneur se défend tout seul. Vous croyez ça? Le Seigneur est capable de se défendre tout seul. Mais Pierre, en prenant cette position, il voulait peut-être dire, écoute, t'inquiète pas, Jésus, je gère la situation, je vais venir, je vais régler cette affaire. Non, tu n'as rien à faire. Et là, Jésus est en train de lui expliquer, mais moi, je peux intervenir quand je veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus aurait pu ne pas monter sur la croix. Il suffisait juste qu'il appelle les anges et puis voilà, l'affaire était réglée. Mais voilà qu'il fallait qu'il accomplisse ce dont il était venu pour tous les hommes, mourir à la croix du calvaire. Les Écritures nous enseignent que les anges sont des êtres créés par Christ et pour lui. C'est ce que nous dit Colossiens chapitre 1er, verset 16. Ils sont là pour lui et par lui. Et finalement, ils sont à la disposition de Jésus. Et à tout moment, ils vont répondre aux besoins de Christ. Alors, vous allez me dire, quelle apparence ils ont? Ah ben, les anges sont des esprits invisibles. Enfin, en général, oui, c'est vrai. De temps en temps, on va s'apercevoir que parfois, ils peuvent agir différemment. Nous pouvons passer à côté d'eux sans même nous en rendre compte. On peut passer à côté d'eux sans même nous en rendre compte. On peut croiser quelqu'un dans la rue, c'est peut-être un ange. Vous savez, je vais vous raconter une expérience qui s'est passée alors que j'exerçais dans une des églises, à un culte un dimanche matin. Et je vois rentrer quelqu'un qui était complètement défait sur son visage. Et je prêche l'évangile, enfin la parole de Dieu, c'était un dimanche matin, j'apportais pour les chrétiens, tout ça. On priait, on avait un moment avec Dieu et tout, et c'était formidable. À un moment donné, je le vois pleurer, et puis à la fin du culte, dit « Pasteur, je veux venir vous voir, je veux vous parler ». Puis on a pris du temps à part, et il me dit « Voilà, vous savez pourquoi je suis rentré dans cette église ?» Je dis « Ben écoutez, dites-moi tout. » « Ben c'est simple, je partais pour aller me suicider ». Et en partant pour me suicider, au moment où j'arrive, il était de l'autre côté de la route, au moment où il arrivait au niveau de la porte de l'église, il y a quelqu'un qui vient le voir, il tend la main, il dit « Bonjour monsieur, je voudrais vous dire qu'il faudrait qu'avant que vous alliez plus loin, que vous rentrez dans cette salle, il y a quelque chose pour vous. » Il se tend la main, il dit « Au revoir monsieur », il a continué le chemin. Et lui, il s'est retrouvé, il a vu ce monsieur, mais c'est qui cet homme? Et il a vu cette porte, il a traversé la route. Il est allé dans ce lieu et finalement il s'est aperçu que c'était une église. Il a dit oui, pourquoi pas, avant d'aller me suicider. Il s'est assis et il a écouté le message. Et là il y a eu un don spirituel et ça l'a fini d'être sauvé et d'être racheté par Dieu. Cet homme, il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et pourquoi? Parce qu'un ange était passé par là. Et cet homme, qui est devenu chrétien maintenant, cet homme, il a passé quasiment toute une semaine, pratiquement même 2 semaines, à tourner dans toute la ville pour retrouver cette personne qu'il n'a jamais retrouvée. C'est-à-dire que Dieu avait prévu un ange sur son chemin pour lui dire, voilà, rentre dans cette salle parce qu'il y a quelque chose pour toi. Pour montrer l'activité des anges. Peut-être invisibles, les anges peuvent être invisibles, pour juste, je dirais, avancer, puis les voir passer, ou ne pas les voir du tout parce qu'ils sont invisibles, mais ils passent autour de vous sans que vous en apercevez, comme ça peut être un être humain. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 13:2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Alléluia! Est-ce que vous logez quelqu'un à la maison en ce moment? Peut-être que vous êtes en train de loger des anges. Amen. Gloire à Dieu. Croyez-le. Soyez pas incrédule. Peut-être que vous avez des anges à la maison. Et ça, c'est quelque chose de fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Les anges peuvent apparaître en forme humaine. Et j'ai cet exemple de Corneille centenier romain. Corneille qui était là, c'était un homme droit, un homme spirituel. La parole de Dieu nous dit que c'était quelqu'un qui craignait Dieu, priait Dieu continuellement. Il suppliait que quelqu'un vienne prêcher l'évangile au milieu des païens. Et là, Pierre, il a été touché. Pierre a été convaincu par le Saint-Esprit d'aller voir ce païen, ce Corneille, de prêcher l'évangile dans toute sa famille. Il y a eu vraiment une action puissante de Dieu. Et ça a été le premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre. Mais écoutez-moi bien, parce que quand Pierre est venu chez Corneille, ils ont discuté ensemble. Oh, il a prêché l'évangile, il a annoncé la parole, et puis Pierre, c'était tout nouveau pour lui, il avait l'habitude de prêcher qu'aux Juifs. Et là, il se retrouve à prêcher à des païens. Merci Seigneur, heureusement qu'il a obéi, parce que nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Mais il est dit dans ce passage, alors qu'ils étaient en train de converser, à un moment donné, il est dit ceci, acte chapitre 10, verset 30, il explique à Pierre comment ça s'est passé. « Je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Alléluia. Et là, il explique, il dit, un homme vêtu d'un habit éclatant. Mais quand vous regardez ce texte, acte 10, un peu avant, il nous a dit que un ange est venu et apparu à Corneille. Et là, il explique à Pierre comment il était cet ange. C'était un homme vêtu d'un habit éclatant. Il n'explique pas son visage, il ne sait pas comment il était, il n'a pas expliqué s'il avait des cheveux courts, longs, blonds ou noirs, peu importe, ce n'était pas le problème, sauf qu'il avait un habit éclatant et il était touché par cette chose-là. Et finalement, un ange est venu et a paru à Corneille au travers de cela. Dans un récit de la résurrection du Seigneur, 2 anges apparurent à Marie de Magdala et à 2 autres femmes. Et là, la parole de Dieu nous dit que les anges sont venus pour leur annoncer la résurrection de Jésus. Voyez comment ils agissent, les anges, de manière extraordinaire. Il nous est parlé aussi de 3 hommes. Si vous vous rappelez, dans Daniel, au chapitre 3, verset 24, il nous est parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. Et vous savez qu'à ce moment-là, au milieu de la fournaise ardente, et parce qu'ils ont été mis dans la fournaise ardente à cause de juste d'un fait incroyable, c'est qu'ils n'ont pas voulu adorer la statue d'or. Conclusion, ils ont été condamnés à rentrer dans une fournaise ardente. Et la Bible nous dit ceci d'incroyable. Le roi ordonna de chauffer la chaudière 7 fois plus qu'il convenait. À un tel point, c'est que la flamme tua les hommes qui avaient été jetés, qui avaient jeté les 3 hommes liés. Et c'est vrai que ceux qui étaient là, qui étaient au service du roi, quand ils ont poussé les 3 hommes dans la fournaise eux-mêmes, tellement qu'elle était intense la fournaise, eux-mêmes ont été brûlés et ont été consumés au sol. C'était juste quelque chose d'incroyable qui était en train de se passer. Mais la parole de Dieu nous dit ceci dans Daniel 3, 24. Alors le roi Nébuchadnezzar fut effrayé. Pourquoi il a été effrayé? Parce qu'il dit ceci, « Je vois 4 hommes sans lien qui marchaient au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e, regardez bien, ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ils étaient liés, ils étaient rentrés liés, attachés dans cette fournaise. Ils ont été jetés comme cela. Et à un moment donné, à une fraction de seconde, de 3, ils sont passés à 4. Et là, il y avait un homme particulier. Ça a déstabilisé tout le monde, ça a bousculé tout le monde. Même Nébuchadnezzar, quand il les a sortis, il a dit, en fait, vous avez un Dieu suprême. Il dit ceci, vous avez un Dieu supérieur. Il a reconnu à ce moment-là qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui, quelqu'un de plus puissant que lui. Et cela parce que des anges sont venus, parce qu'un ange est venu au milieu de cette fournaise. Que dire de Daniel? Toujours dans son même livre. Au chapitre 6, il refuse de se prosterner devant le décret du roi. En fait, ce n'était pas vraiment le décret du roi, c'était le décret des satrapes qui sont venus, ils ont tout préparé, ils ont fait le document, ils sont allés voir le roi en disant « Voilà, roi, ce serait bien que tu signes en bas, comme ça on va régler l'affaire de Daniel. » Daniel dérangeait les satrapes. Et pour l'éliminer, ben, ils ont fait ce décret, à savoir qu'il fallait, il fallait point se prosterner devant les hommes et devant d'autres dieux pendant 30 jours, et juste vers toi, mon roi. Et puis, bon, finalement, quelque part, le roi, il a signé, sans voir les conséquences derrière. Et puis, quand ils se sont aperçus que lui, Daniel, parce qu'on connaissait Daniel, on savait que Daniel, c'était quelqu'un de droit, que c'était quelqu'un de spirituel, c'était quelqu'un qui ne voulait pas, je dirais, offenser son créateur. Et la parole de Dieu nous montre dans ce passage que finalement, lui, il a continué comme d'habitude à venir 3 fois par jour. Il ouvrait les fenêtres, il se tournait vers le ciel et là, il commençait à louer, à adorer, à célébrer, à bénir son Dieu, son roi, son Seigneur. Et lui, il n'a pas voulu changer d'un seul iota sa position vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le décret du roi a été appliqué. À savoir qu'il fallait jeter Daniel à la fosse aux lions. Sauf que la parole de Dieu nous montre que le roi, lui, n'était pas d'accord. Et il a de suite, il s'est senti vraiment trahi, finalement, je dirais, avec les satrapes, les gouverneurs. Et la parole de Dieu nous dit dans ce texte, Daniel chapitre 6, verset 16, il dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Je ne le voulais pas, ça. J'ai signé, mais sans me rendre compte que finalement, ça allait te toucher, Daniel. Et la parole de Dieu nous dit que pendant toute la nuit, alors qu'on avait jeté Daniel à la fosse aux lions pendant toute la nuit, le roi n'a pas pu manger, il n'a pas pu, faire la fête. Il était là, il était vraiment mal. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas pu dormir de toute la nuit. Il était vraiment travaillé dans son cœur. Et à la fin, début de la journée, tôt le matin, il descend rapidement à la fosse pour voir si Daniel était là. Et la parole de Dieu nous dit ceci au verset 22. « Mon Dieu, et c'est Daniel qui parle. » Il dit « Mon Dieu a envoyé son ange. » Quelqu'un dit « Amen. » Alléluia. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait aucun mal. » L'ange est passé par là pour garder Daniel. Écoutez-moi bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que le roi, lui, quand il a vu ça, il a pris les satrapes, les gouverneurs et toute la famille qui va avec. Et il a jeté tous ceux qui avaient manigancé derrière, il les a jetés à la fosse aux lions. La parole de Dieu nous dit qu'avant même qu'ils soient descendus au fond de la fosse, eh bien, leurs os étaient déjà brisés en 1000 morceaux. Écoutez-moi bien parce que l'ange de Dieu vient pour nous accompagner, pour nous soutenir, plus proche de nous. Il nous est parlé aussi, je ne sais pas si vous avez lu la biographie du prédicateur Sadhu Sundar Singh. Je vous invite à lire ses récits, sa biographie, parce que c'était un prédicateur hors pair. Quelqu'un qui a été vraiment un prédicateur exceptionnel. Qui, en Inde à prêcher l'évangile malgré la persécution. Il a été maltraité, il a été fouetté, il a été mis en prison, il a été lapidé. Puis il s'est passé toutes sortes de choses. À chaque fois, il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Chaque fois, il avait confiance en Dieu. À un moment donné de sa vie, il s'est retrouvé dans une situation vraiment très, très, très délicate. Il était condamné à mort. Et je voudrais juste vous lire un extrait de son livre. Et il est dit ceci, il a été jeté nu au fond d'un puits à sec dont le couvercle est verrouillé. Un coup de massue lui a été prodigué sur le bras et la douleur a été lancinante. Pire, il s'est retrouvé gisant dans un amas de corps en décomposition parce qu'il a été jeté dans un trou et au fond il y avait plein de personnes qui avaient été aussi condamnées à mort et il y avait toutes sortes de corps qui étaient en train de moisir. Écoutez-moi bien une chose parce que là c'est quelque chose qui nous dépasse tout ça. Il s'est retrouvé gisant dans un amas de corps en décomposition, victime précédente de la mort lente qui l'attend. Son seul crime est d'avoir prêché l'évangile. Désespéré, il reprend les paroles du Christ, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, au troisième soir de son épouvantable incarcération, il perçoit un grattement venu d'en haut, que quelqu'un force sa prison, pardon. Sundar entend une clé tourner dans la serrure et le couvercle du fer se retire. Une voix lui demande de saisir une corde. Lorsque celle-ci lui parvient, il met le pied dans la boucle et se trouve hissé à l'extérieur. Étendu sur le sol, toute douleur disparue, Sundar entend le bruit du couvercle que l'on remet en place avant de le verrouiller. Mais lorsqu'il se tourne pour remercier son libérateur, il n'y a plus personne. Sundar ne peut que remercier Dieu de son évasion. Alléluia. Oui, c'est plus au temps de Daniel, c'est plus au temps des évangiles de Jean. Là, c'est proche de chez nous. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, de partout dans le monde, on sait que les chrétiens sont persécutés. Combien sont gardés par le Seigneur au travers des anges? On ne peut pas le chiffrer, ça. On ne peut pas chiffrer toutes les fois où Dieu peut-être t'a gardé à toi aussi, mon frère, ma sœur, au travers des anges. Parce qu'à un moment donné, peut-être Christ a donné un ordre à un ange pour te garder de telle ou telle situation, te protéger, t'avertir. Il y a même peut-être des moments, on ne s'en aperçoit pas, on n'a jamais été averti, mais peut-être qu'on était proche de la mort et que Dieu nous l'a évité. Il y a des moments où on s'en est rendu compte, mais d'autres moments, peut-être tu ne vas jamais t'en rendre compte. Ce sera dans le ciel de gloire que Dieu va t'expliquer tout ça. Parce qu'il y a une telle activité des anges que c'est quelque chose juste d'incroyable. Une sœur m'a témoigné récemment qu'étant bébé dans une voiture, alors qu'ils ont eu un accident de voiture avec ses parents, étant bébé, elle a été éjectée de la voiture à 30 mètres, elle a été déposée, elle dormait. Malgré qu'elle avait été éjectée, en tombant par terre, elle dormait encore. Et Dieu l'avait protégée. Et un autre récit, ça c'est un frère avec qui j'ai pu partager, un frère qui était dans l'église dans laquelle j'exerçais. Alors qu'il était en voiture sur l'autoroute, il montait vers le nord et il y avait l'autoroute qui descendait vers le sud. Et à un moment donné, alors qu'il avance comme cela, il y a une voiture qui arrive en face. Et au moment où elle arrive, il a voulu l'éviter, alors il est allé à droite et malheureusement, celle qui était en face a fait pareil. Et ils se sont percutés tous les deux. Chose qu'il y avait, c'est que du côté droit, il y avait un ravin. Et s'il tombait dans le ravin, lui, ben, il était quasiment mort et assuré d'être mort. Et il est sorti de la voiture. Il y a eu un choc frontal. Il est sorti par le pare-brise. Et là, il m'explique une chose. Il me dit, Didier, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai été comme propulsé en l'air. Et au moment où j'étais propulsé, j'ai senti une main sous ma cuisse et une autre main sous mon dos. Comme si on portait un enfant comme cela. Et je me suis vu traverser l'autoroute qui descendait vers le sud. Je me suis vu transporter comme ça et aller de l'autre côté de l'autoroute. Et là, j'ai été posé doucement au sol. Et j'étais à plus de 100 mètres de l'accident. Et ça l'a touché, ça l'a complètement bousculé dans sa vie. Il me dit, Didier, j'ai appris une chose dans cette affaire. Il nous a rendu témoignage à l'église. Ça a été vraiment quelque chose de très fort que lui-même a ressenti et qui était vraiment surprenant pour lui, mais même peut-être pour tout le monde. Mais il m'a dit une chose, dit Didier, je n'ai plus le droit d'être incrédule et d'être dans le doute vis-à-vis de mon Dieu. Alléluia, amen. Je veux dire, il faudrait peut-être éviter d'avoir un accident pour ça. Hein. Entre nous, hein, ne cherchez pas l'accident pour avoir la certitude que Jésus existe, hein, d'avoir la foi. Voilà, je pense qu'on peut éviter tellement de complications. Mais je vais vous dire une chose. les anges sont là. Ils sont plus proches de vous que vous pouvez le croire. Ils sont au milieu de nous. Ils sont présents dans ce lieu. Pierre était en prison dans Actes 12. Il est dit justement au verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant à côté en disant, « Lève-toi, promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. » Là aussi, dans la prison, les anges ont su être capables de libérer Pierre. Comme il a été capable de protéger les chrétiens, comme il a pu être capable de sortir Daniel de la fosse au lion, comme il a été capable, cet ange, de venir protéger ses trois dans la fournaise, ben là, dans ce passage, un ange est capable aussi de sortir un frère d'une prison. Mais plus que cela, Paul avertit d'une tempête. Quand le centurion a voulu plutôt écouter le patron du bateau, hein, du navire, et le pilote que l'apôtre Paul. Alors que l'apôtre Paul a dit, mais si on part maintenant, on va périr et on risque d'avoir pas mal de dégâts. Et la parole de Dieu nous dit qu'un vent impétueux qu'on appelle le requillon se déchaîna. Et la Bible nous dit que, justement, ils étaient obligés de jeter la cargaison. Ils ont été obligés de jeter la grée du navire. Et la parole de Dieu nous dit que pendant plusieurs jours, ils n'ont pas pu manger, ils n'ont pas pu boire. Ils se sont retrouvés à l'extrémité. Les Écritures nous montrent qu'ils étaient au bord de mourir. Ils étaient à deux doigts de mourir. Et là, l'apôtre Paul reste l'apôtre Paul. Et je pense qu'il a été obligé à un moment donné de recevoir une parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 27, verset 23. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Et cette parole de Dieu, il l'a dite à tout le monde. Et a rassemblé tous ceux qui étaient sur le bateau en disant, ne craignez rien, un ange de l'Éternel m'est apparu. Il m'a dit, ne craignez point, vous n'allez pas périr. Peut-être que vous êtes en train d'être secoué, certes c'est vrai, parce que vous auriez dû m'écouter. J'avais reçu une parole de Dieu et dans mon cœur, il ne fallait pas partir. Mais voilà, vous avez désobéi, peu importe. Mais ne craignez rien, vous n'allez pas périr. Pour vous montrer par là que l'ange peut être là aussi pour nous avertir, frères et sœurs. Et quand on n'écoute pas les anges, quelque part c'est Dieu parce que c'est Dieu qui parle, eh bien, on peut se retrouver devant des situations compliquées. Les anges sont là pour nous sauver, sont là pour nous accompagner, pour nous encourager, pour nous avertir. Alors la parole de Dieu nous montre que le nombre des anges est incalculable. On ne peut pas compter les anges. Jean, ravi dans le ciel, voit des anges autour du trône proclamant les louanges de l'agneau immolé et dit ceci, le nombre était des myriades et des milliers, Apocalypse chapitre 5. Il y avait des milliers de partout et aujourd'hui de partout dans le monde. Les anges se promènent. Sur toute la surface du globe, les anges se promènent. Si le diable, il est certes le prince de ce monde, Jésus, lui, il est le roi des rois, il est le Dieu de ce monde. Et en tant que Dieu, eh bien, il a le pouvoir de dispatcher des milliers d'anges sur toute la surface de la terre. Et c'est la raison pour laquelle, quand on va quitter ce lieu tout à l'heure, on va chacun partir dans notre foyer, notre maison, et bien il y aura des anges qui tourneront autour de nous. Ils seront capables d'être là, de veiller sur nous, d'être à la disposition de Jésus à tout moment pour intervenir à notre égard. En notre faveur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est ça qui est très, très important. À la naissance de Jésus, un ange du Seigneur vient annoncer aux bergers la naissance du Sauveur. Et aussitôt, une multitude de l'armée céleste se trouva là et célébra les louanges de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Même à la résurrection, quand le Seigneur est ressuscité et sorti du tombeau, un ange vint rouler la pierre. Alors on s'aperçoit qu'ils sont là à tout moment, à tout instant. Les anges sont de partout, je dirais, pour agir, pour répondre aux besoins de Dieu, de son Fils, en faveur de chacun d'entre nous. Il y a visiblement, la parole de Dieu nous le montre, il y a visiblement une forme d'ordre aux catégories des anges. La parole de Dieu nous parle des séraphins, tout d'abord. À Éphésiens chapitre 6, vous avez parlé des séraphins, séraphins qui veut dire ardents, les brûlants. Les séraphins sont des anges qui adorent Dieu continuellement. Ils sont là à adorer Dieu continuellement, continuellement, continuellement. Je peux vous dire que cette semaine de jeûne et prière, on était avec les séraphins. Parce qu'on a passé toute notre semaine à louer et adorer Dieu. C'était notre but, c'était notre désir. Et les séraphins ont dit, waouh, à Paris-Bastille, ils sont chauds bouillants. Hein? Ils sont avec nous là, c'est formidable. Ils ont dû en parler ensemble, dire regardez les frères et sœurs en bas, ils sont chauds avec nous. Et je crois qu'ils ont dû se réjouir. Et on est forcément réjouis de pouvoir se mettre en collaboration avec les anges pour un seul but, adorer notre maître. Et il n'y a pas seulement les séraphins, la Bible nous parle des chérubins. Le rôle des chérubins, c'est de magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. Puis il nous est parlé aussi dans la parole de Dieu de Michaël ou Michel, en fonction des versions, qui est appelé l'archange, au chef des anges. C'est ce que nous retrouvons dans Jude, verset 9. C'est-à-dire qu'on voit plusieurs catégories, puisque c'est un archange, c'est le chef des anges. Il est là au-dessus des autres. Il y a une véritable hiérarchie, finalement, au niveau des anges. Et dans l'Apocalypse, nous le voyons à la tête des anges combattre dans le ciel contre Satan et les anges déchus. C'est-à-dire que cet archange a le pouvoir vraiment de combattre Satan et ses anges déchus. Alors, imaginez Dieu qui, lui, est au-dessus de tout. Comment il peut être tout-puissant pour pouvoir agir contre les puissances démoniaques? Alléluia. Puis, il nous a parlé de Gabriel, qui veut dire « homme de Dieu ». Alors Gabriel, lui, avait une autre fonction différente. C'est lui que Dieu a envoyé à Zacharie pour annoncer la naissance de son fils, Jean, et à Marie pour lui dire qu'elle serait la mère du Sauveur. Ça, c'est dans Luc, chapitre 1er. Gabriel était plus le messager. Oui, Michaël, lui, était plus le combattant en tant qu'ange, le défenseur. Et lui, Gabriel, était plus du côté du messager. Il fut aussi envoyé à Daniel pour lui révéler qu'au bout d'un temps déterminé, le Messie, le Christ, apparaîtrait. Vous voyez, alors les anges ont vraiment multiples fonctions, et ils sont multicartes, ils sont capables de s'adapter à tous les domaines, et c'est incroyable comment ils peuvent agir de manière puissante. Et pour conclure, les anges s'intéressent de près à l'Église de Christ. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Déjà, pour eux, la croix est un mystère. La Bible nous le dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, les anges désirent plonger leur regard. C'est par les de l'Église. Là. Pour eux, la croix est un mystère. Même le salut des chrétiens reste un mystère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que eux, les anges, ne peuvent pas se repentir. Ils ne savent pas ce que c'est la croix du calvaire. La croix, elle a été dressée, Jésus, il est mort pour qui? Pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous repentir. Demander le pardon de nos péchés, accepter Christ comme notre sauveur personnel. Les anges, eux, n'ont pas à se repentir. Ils ont été créés par Dieu. S'ils obéissent pas, ils deviennent des démons. Terminé. Mais eux ne connaissent pas la mort. Nous connaissons la mort. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus, afin qu'il vienne nous pardonner, nous laver de nos péchés. Et ça, pour eux, c'est un mystère parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la croix. Ils ne savent pas. Ils ne goûtent pas. Ils n'ont pas goûté au fait d'être péché, de se repentir. Il n'y a que nous. Et pour eux, c'est un mystère. Ils aiment bien plonger leur regard là-dedans. Alors imaginez. Imaginez-les en train de nous regarder, nous, sauvés par grâce, rachetés par Dieu, en train de louer, d'adorer le Seigneur comme nous l'avons fait toute cette semaine. C'est juste incroyable. Et ils sont fiers de Christ, ils sont fiers de notre Sauveur, ils sont fiers de notre Créateur, tout cela parce que finalement, au travers de la croix du calvaire, eh bien, ça a permis à des milliers, des millions de gens de passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, et de pouvoir devenir des chrétiens comme chacun d'entre nous, de pouvoir élever nos mains et célébrer, louer notre Dieu et être en phase et en connexion avec les séraphins et tous les anges. Vous comprenez ? Qu'au travers de cela, nous rentrons dans la dimension de la vie de l'esprit. C'est plus de demander à Dieu ceci ou cela, même s'il faut le faire, mais à un moment donné, on rentre dans une dimension de l'esprit. On rentre dans une sphère qui n'est pas la nôtre, la sphère de Dieu. Et là, on est là juste pour contempler le Seigneur et on goûte juste une portion de ce que nous allons vivre pour l'éternité. Et c'est ce que eux font, les anges, depuis... Il n'existe pas le culte des anges. Il n'y a pas de culte des anges. Nous n'adorons pas les anges. Et Dieu ne le permettra pas. Et vous savez, Jean a été repris à cause de ça. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 8, il dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire ». L'ange dit, non, Jean, garde-toi de le faire. Tu n'as pas à te mettre à mes pieds. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu. C'est un ordre de l'ange, adore Dieu. La parole de Dieu nous dit, n'adorez que Dieu seul. Les anges sont là à notre service. Ils sont là à la disposition du maître. Ils sont là juste à la disposition de Dieu. À un moment donné, ils viendront juste pour nous aider, nous encourager, nous avertir, nous soutenir, nous fortifier. Enfin, en fait, ils sont au service de l'Église, en faveur du peuple de Dieu. Puissions comprendre cela, frères et sœurs, ce matin. Et j'espère qu'en ressortant de ce lieu, vous allez mieux comprendre cette dimension des anges dans notre vie, dans notre quotidien. Alléluia. Et qu'à un moment donné, peut-être à un moment donné, vous vous êtes dit, ah, dans cette situation, ah, Dieu m'a gardé. En fait, c'était un ange qui est venu te soutenir. Mais parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu. Parce qu'il a reçu l'ordre du Maître. Il est venu te soutenir, il est venu t'encourager à un moment donné de ta vie. Il est venu peut-être même te protéger d'une situation grave, d'un contexte, et t'en as peut-être rendu témoignage. Et c'est vrai que c'est Dieu qui a intervenu, mais au travers de ses anges. Et aujourd'hui, on les a au milieu de nous. On ne peut pas les compter, on ne peut pas les voir, certes, on ne peut pas les toucher, mais ils sont réellement là. Ils sont présents dans ce lieu. Alléluia. Et quand tu vas partir, ils seront autour de toi, ils vont veiller sur toi. Ils seront là, se déplacer, à te regarder. Alléluia. Comme il est en train de te regarder maintenant. Amen. Et je crois que ça, c'est quelque chose de formidable, de réaliser que Dieu nous a mis à notre disposition vraiment des anges pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous protéger, pour vraiment nous amener plus loin et goûter à une expérience extraordinaire de cette dimension de l'Esprit dans notre vie. Alléluia. On peut se lever à notre place. Gloire à Dieu. Amen. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur de ce qu'il a pu mettre à la disposition de l'Église, à la faveur de l'Église, des anges, amen, qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour veiller sur nous, qui seront là même parfois pour, pour t'avertir, mon frère, ma sœur. Ils seront là peut-être même pour t'alerter, disant tu vas trop loin dans telle ou telle situation. C'est pas bon là où tu vas. Arrête dans ce que tu fais. Puis dans certains moments, ils vont t'encourager. Allez, vas-y, fonce. Faut y aller maintenant. À un moment donné, tu verras que vraiment les anges seront là pour tout simplement te tirer vers le haut, afin que tu puisses saisir la toute puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. On peut juste adorer notre Dieu quelques instants. Alléluia, le remercier de ce qui veille sur nous. C'est un privilège d'appartenir à notre Maître. Alléluia. C'est un privilège d'appartenir à notre Dieu. C'est un privilège d'être enfant du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors on va le louer quelques instants et levons nos voix ensemble. On va laisser la place à Timothée qui terminera par un chant. Puissions élever nos voix encore, alors que nous l'avons fait pendant toute cette semaine. On va se mettre en connexion avec les séraphins et on va dire merci Seigneur pour ta grâce toute puissante. Nous t'adorons Père, nous t'adorons Père, alléluia dans ton temple. Nous t'adorons Seigneur Jésus de ce que tu as un jour, Seigneur Jésus, donné ta vie sur la croix du calvaire. Nous t'adorons avec les séraphins, avec les anges, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Seigneur, tu nous as mis, Seigneur Jésus, des anges en faveur de ce que tu as sauvé. Seigneur, nous te remercions ensemble pour ton œuvre, pour ta puissance. Seigneur Jésus, tu as agi dans nos vies. Tu nous as gardés combien de fois? Tu nous as protégés combien de fois? Seigneur, tu as pris soin de nous combien de fois? Et cela au travers des anges. Tu as donné des ordres à l'un, des ordres à l'ordre, à l'ordre. Seigneur, pour intervenir en notre faveur, pour agir au milieu de ton peuple, pour agir au milieu de ton Église. Alors nous te bénissons ensemble ce matin. Nous te disons merci, 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 alléluia, parce que tu prends soin de nous, parce que tu veilles sur ton Église, parce que tu veilles sur ton peuple, parce que tu nous aimes tout simplement, Seigneur. Alors merci pour les anges, merci pour les séraphins, les chérubins, merci, Seigneur, pour les archanges, alléluia, qui sont là à t'adorer continuellement, éternellement, qui sont là, Seigneur, à célébrer la gloire du ressuscité. Et nous voulons le faire avec eux. Nous voulons nous joindre, Seigneur, à la louange et l'adoration, Seigneur. Oh, des anges, merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu apportes à ton peuple. Gloire et louange à ton nom. Gloire et louange à l'agneau de Dieu. Gloire et louange à celui qui est, qui était et qui sera. Amen. Amen et amen, alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu.